It's Morning Edition from NPR News.
Merci, Jean San Pinto, House. Hi,
I'm Radio Rosana di Paris.
Produce Ghetto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et bien sûr, ce soir, nous sommes en Algérie qui s'est levée ce matin sur la mort d'Ahmed Gaïd Salah. Le chef d'état-major des armées était surtout le garant du système, celui-là même que veulent renverser les manifestants. On verra comment la suite peut s'écrire avec notre invité. Le bruit du monde ce soir est en Birmanie avec une minorité en guerre contre l'armée birmane. On ne parle pas de Rohingya, on parle de bouddhistes que vous allez découvrir. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier avec des assiettes en Arabie Saoudite anti-gaspillage. Vous découvrirez tout cela. Et une révolution politique aussi à Cuba. 18h50, le monde selon Trump, saison 3. Et encore un élément sur le fameux donnant-donnant avec l'Ukraine. Savez-vous également combien de spots de pub de Trump parlent d'impeachment? Vous le découvrirez. Et puis 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four, ou comment Narendra Modi a trop tiré sur la corde populiste et peut-être en train de se tirer une balle dans le pied en Inde. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Karima Diresh.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, vous êtes spécialisée dans l'histoire contemporaine du Maghreb, vous êtes directrice de recherche au CNRS. On remercie nos amis de France Bleu qui vous accueillent dans leur studio à Aix-en-Provence. Karima Diresh, il était l'homme fort du pays, Ahmed Gaïd Salah, très impliqué depuis le début de la révolution algérienne. Il s'est montré, il a parlé. C'est lui qui avait insisté pour le départ de Bouteflika. Il a porté même l'élection du 12 décembre à bout de bras, ce que l'armée préfère en général ne pas faire, puisqu'elle préfère être dans l'ombre. Son décès brutal, est-ce qu'il prend le pays par surprise ou pas?
Mais écoutez, sans doute, mais en même temps qu'un monsieur qui allait avoir 80 ans dans quelques jours et qui a eu à vivre cet épisode du Hirak pendant 10 mois, ça n'a pas dû être une vraie partie de plaisir, ni des vacances pour lui, succombe à une crise cardiaque. Il n'y a peut-être pas vraiment de quoi s'étonner.
Mais politiquement, est-ce que vous avez le sentiment que, y compris le nouveau président et même la rue, ont été cueillis, on va dire, par cette mort?
Oui, sans doute, d'autant plus que Gaïd Salah a polarisé complètement en fait l'attention de l'opinion publique algérienne, notamment une très grande part de son hostilité. C'est quelque chose qui est tout à fait inédit. C'est la première fois effectivement qu'un très haut gradé, il n'est pas président de la République, il est chef d'état-major, qu'un très haut gradé puisse agir de cette façon-là aussi directe. Nous avons l'habitude que l'armée algérienne effectivement agissent derrière des présidences civiles, d'ailleurs des présidences qu'elle faisait, qu'elle défaisait, et qu'avec Gaïd Salah, nous avons quelque chose de totalement nouveau, puisque c'est la première fois qu'on a eu, je ne sais pas combien le nombre de discours qu'il a eu à dire ces 10 derniers mois, et en fait, nous avons véritablement une institution militaire par lui qui a fonctionné, mais totalement à découvert. Et là, oui, effectivement, c'est un scénario qui est totalement inédit.
On a beaucoup dit que, depuis ce matin, l'annonce de sa mort, que la donne n'était pas tout à fait modifiée. On y viendra ensemble. On parlera de son successeur aussi dans un instant, pour l'instant par intérim. Mais le général Salah apparaissait comme le gardien du système. J'avais presque envie de dire le gardien du temple, le dernier gardien du système. Donc est-ce qu'on peut dire que le système est quand même un peu ébranlé quand un personnage comme celui-ci disparaît brutalement?
Le dernier garant, je ne crois pas. Non, Gaïd Salah est mort, mais le système n'est pas mort. Il est bien vivant, de toute façon. Disons que Gaïd Salah, c'est un peu une espèce de prototype de ce que la mémoire collective algérienne pouvait se faire, en fait, d'un général au gradé, réellement. D'abord, son âge, une très très longue carrière, pas d'effet d'ailleurs militaire absolument extraordinaire, mais effectivement c'est un homme qui a servi, je dirais, le système de façon très très fidèle, avec beaucoup de loyauté. D'ailleurs, il devait son poste de chef d'état-major à Bouteflika, avec lequel il était dans une très grande proximité.
Et installé depuis une bonne quinzaine d'années, ce qui est une grande longévité aussi à ce poste-là apparemment.
Absolument, tout à fait. Donc c'est vraiment un homme, oui. Fait partie, il est certainement pas du tout irremplaçable, hein, mm-hmm. C'est pas ça du tout. Il y en aura d'autres, d'ailleurs la rapidité avec laquelle le poste a été remplacé vous donne une idée aussi peut-être de l'inquiétude qui nourrit l'idée de la vacance.
Alors justement, du poste. Cette inquiétude-là, ben, parlons-en de son successeur qui s'appelle Saïd Chengria, de ce que j'en sais.
Oui, absolument.
Qui c'est ce monsieur Saïd Chengria?
Écoutez, il est commandant donc des forces terrestres. Là aussi, pas d'effet d'armes absolument extraordinaire à son actif, mais oui, un des éléments effectivement de l'institution militaire inscrit depuis très longtemps effectivement dans des fonctions de très haut niveau, mais là aussi élément très fidèle donc à l'institution militaire.
Est-ce que vous direz,
je ne sais pas.
Pardon.
Oui.
Pardon, allez-y, oui, je vous en prie. Est-ce que vous diriez, Karima Diresh, qu'il tient l'armée aussi bien, au fond, que le général Salah pouvait la tenir?
Le scénario le plus probable, en fait, c'est que, je pense, nous sommes quelques-uns à le penser, c'est qu'il va réutiliser, en fait, les anciennes traditions de l'institution militaire. C'est logiquement de se mettre un peu, de prendre trois pas de distance et de laisser... formellement, le président Abdelmajid Tebboune exerçait sa fonction, logiquement, parce que si Gaït Salah s'est autant impliqué et s'est autant exposé, c'est tout simplement qu'il a eu à gérer quelque chose d'exceptionnel, qui est le Hirak algérien, mm-hmm. que personne n'a vu arriver venir, là aussi. Donc, il est évident que l'opinion publique algérienne l'a aussi extrêmement remonté contre le cinquième mandat et qui a obtenu d'ailleurs le report de deux élections présidentielles, celle du 18 avril et du 4 juillet, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mmh. Dire comme résultat en fait de l'action militante, il a eu à faire ça, il a eu à gérer ça. Donc forcément, il est logique que le fait qu'il y ait une présidence qui était une présidence provisoire, etc. Et c'est là où les Algériens ont eu cette expérience tout à fait première de voir le fonctionnement de l'armée en direct dans les affaires de l'État.
Est-ce qu'il y a
clairement.
Une...
Donc logiquement, le scénario le plus probable, c'est que le nouveau chef d'état-major reprenne sa place là où devait être celle de Gaït Salah.
Est-ce qu'il y a une possibilité pour que l'armée se divise en ce moment? C'est vrai que... J'ai presque envie de dire presque étonnamment, depuis le début de ce mouvement, on a beaucoup craint les violences en Algérie. Il y a eu des arrestations arbitraires, évidemment. Il y a eu des pressions qui ont été faites, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas eu de tir. L'armée ne s'est jamais complètement retournée contre le peuple. Une fois Salah mort, y a-t-il une possibilité de se retrouver au fond avec, j'ai envie de dire, deux armées, une branche qui serait peut-être plus proche des gens et une autre plus difficile à canaliser? Est-ce que c'est une hypothèse ou pas du tout?
C'est compliqué, hein, parce que logiquement, cette branche-là, qui serait plus proche, effectivement, de la contestation citoyenne, de la majorité de l'opinion publique algérienne, logiquement, aurait dû s'exprimer un peu plus tôt. On l'attendait tous, parce que logiquement, on s'est tous dit que, normalement, s'il y avait quelque chose qui devrait bouger, ça viendrait, en fait, de l'armée. Complètement. Et ça ne s'est pas fait pendant 10 mois. 10 mois, c'est long. Mmh. En fait, il aurait pu se passer des tas de choses et ça ne s'est pas fait. Donc, ça suppose que nous avons encore une institution militaire qui, malgré sans doute ses clivages et ses tensions internes, résiste et est tenue, effectivement, par des choses communes.
Mmh. Et sera tout aussi tenue, selon vous, par Saïd Chengria qu'elle était par le général Salah?
C'est une vraie question. Mmh. C'est une vraie question. On ne le sait pas. Pas véritablement. Le scénario, l'autre scénario, mais que nous pensons être le plus improbable, mais qui, pourquoi pas, on ne sait jamais, ce serait que le nouveau président, Abdelmajid Tebboune, qui a quand même tendu la main aux militants du Hirak et à des discussions ou à certaines formes de négociations, puisse décider, effectivement, de se mettre du côté de la mobilisation citoyenne, de toute façon. Mais comme il est quand même le personnage qui a été choisi par Gaït Salah et par l'armée, ça semble pas forcément le scénario le plus possible.
Et en même temps, si Salah désormais n'est plus là, est-ce que vous le sentez fragilisé, ce nouveau président Tebboune, ou pas?
Oui, ça rejoint votre question précédente, mm-hmm. effectivement, puisqu'il a été placé par Gaït mm-hmm. Salah, il pourrait effectivement, je dirais, profiter, entre guillemets, donc, du décès brutal pour prendre un peu plus, effectivement, d'amplitude dans sa fonction et peut-être prendre un peu plus d'indépendance ou décider de certaines initiatives et peut-être effectivement lancer des signaux au mouvement citoyen en disant voilà, je suis sans doute en mesure d'écouter et d'entendre plus de choses. C'est tout à fait c'est un scénario, mais pour nous on pense qu'il est véritablement improbable.
Vous dites en creux que potentiellement effectivement ça reste un problème, mais il peut au fond étonner l'Algérie. Quand je vous entends, ça veut dire que au fond il était pieds et poings liés par le général Salah, qu'il doit effectivement son élection, mais ça veut dire que potentiellement le général Salah parti, il a une envergure qui peut-être sera un peu différente.
Je le crois pas vraiment mmh. au niveau de l'envergure mmh. en fait. De toute façon, Tebboune est mal parti.
Ouais.
Un, premièrement parce qu'il s'est présenté aux élections oui. les élections présidentielles, qui ont été considérées comme des élections vraiment de l'imposture et comme des élections confisquées hein, par mm-hmm. l'opinion publique. Et puis, il a été adoubé par Gaït Salah. Ça fait deux points noirs, sincèrement, contre lui, qui font pas que... C'est pas quelqu'un non plus qui déborde de charisme, mm-hmm. Qui a beaucoup... Il a du mal à communiquer, enfin, voilà. Mais l'histoire nous réserve quelques surprises, on ne sait jamais, allez savoir.
Est-ce que vous savez comment la rue a accueilli en Algérie la nouvelle de la mort de Salah ce matin? Il faut rappeler que dans les dernières manifestations jusque-là, son nom était scandé, assorti de « dégage ». On l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure dans les témoignages du journal mm-hmm. de 18h. Donc comme la mm-hmm. rue, en attendant qu'elle parle vendredi, qu'est-ce qu'elle dit pour l'instant, la rue algérienne?
Plutôt soulagée, plutôt bon débarras, tout en préservant les formules liées effectivement à un décès. Hein, voilà, il est parti, que Dieu le bénisse. Mais voilà, maintenant next, au prochain. Donc les gens, l'opinion est quand même suffisamment lucide. Hein. L'intérêt avec Gaït Salah, c'est qu'il polarisait l'attention avec une forme d'identification parfaite, si vous voulez, de l'ennemi et de l'adversaire, on va dire. Là, du coup, sans lui, l'armée reprend en fait son opacité première. Mmh. Vous savez, son énigme. L'armée algérienne voilà, a une tradition qui est celle de l'énigme, du mystère. Ouais. On ne sait jamais qui fait quoi, etc. Et là, pour le coup, donc, c'est comme un rideau qui se referme. Et les forces motrices de l'institution militaire, eh bien, elles apparaissent beaucoup moins claires et beaucoup moins transparentes que quand il était là, présent.
Et comme si la rue, au fond, n'avait plus de personne à détester en particulier, à pointer du doigt. Parce qu'effectivement, dans la rue, ces derniers temps, c'était sur lui qu'on pointait son doigt en disant « toi, tu dégages ». Est-ce qu'au fond, avoir cette cible-là peut manquer aussi aux manifestants?
Ah oui, bien entendu. D'autant plus qu'avec Gaït Salah, le mythe de l'armée nationale populaire a été quelque peu écorné. D'ailleurs, il a passé son temps à intimider, à réprimer, à admonester et en même temps à exprimer des déclarations d'amour de l'armée algérienne à l'égard du peuple algérien. Mais l'idée, l'image de l'armée algérienne qui est là en soutien du peuple et qui lui garantit sa sécurité, etc. Bon, c'est complètement... Le mythe est tombé. Totalement. Les Algériens ne se sont jamais racontés d'histoire, hein, vous savez, sur l'armée algérienne, parce que c'est ce qu'on appelle l'état profond ou le système, comme on a là, ou le pouvoir avec tous les guillemets possibles et imaginables. Là, on voit bien que ils le disent très bien, ils disent tout change, mais rien ne bouge. Et c'est exactement le sentiment que j'ai aujourd'hui.
Est-ce que la rue va en profiter, selon vous, pour pousser plus fort? Est-ce qu'elle le sentira comme une opportunité pour pousser plus fort? Est-ce qu'elle a cette capacité-là ou pas?
Elle ne peut pousser que si le leadership émerge réellement. Parce que pour l'instant, la force du Hirak, ça a été justement son caractère massif, son caractère interclasse, intergénérationnel, et puis surtout ce caractère totalement national. C'est-à-dire que toutes les wilayas du pays, et même dans les bastions les plus conservateurs à l'égal du pouvoir, ont été touchées par la mobilisation citoyenne. Le souci, c'est que le leadership n'émerge pas. Il n'émerge pas pour des raisons très très précises, hein, qu'on a parfaitement bien analysées. l'idée qu'effectivement, que 60 ans de gouvernement et de régime politique liberticide et autoritaire qui a parfaitement laminé les contre-pouvoirs et les partis politiques, eh ben, c'est compliqué. L'Algérie n'a pas, comme la Tunisie ou comme la Pologne, un syndicat, le Solidarnosc ou l'UGTT qui peut faire le relais, n'a pas aussi l'intelligentsia, qui, comme une partie de l'intelligentsia algérienne est en diaspora, mais une partie est en train, qui est sur place, est en train d'expérimenter, de découvrir et d'expérimenter l'action politique en direct. Donc il faut du temps pour que ça se structure et que ça émerge. Et les Algériens ont aussi le souvenir cuisant et la mémoire de, à chaque fois qu'il y a eu un leadership qui émerge ou des figures de la contestation qui font consensus, ont été systématiquement neutralisées ou achetés ou corrompus par le pouvoir en place. Vous savez, le mouvement des tribus de 2001 est un souvenir cuisant dans la mémoire collective. Et donc, pour le coup, justement, pour pouvoir assurer le consensus et l'uniformité et l'homogénéité de la contestation, on préfère justement qu'il y ait cette forme d'entité qui est à la fois spectaculaire, hein, comme on le voit depuis 10 mois, mais qui porte en elle sa fragilité.
Et est-ce que ça veut dire que l'occasion, peut-être, on a bien compris les difficultés qu'il pouvait y avoir à faire émerger un leader, vous nous l'avez bien expliqué, mais est-ce que l'opportunité n'est pas là aujourd'hui pour une autre forme de lutte qui d'où émergerait peut-être quelqu'un ou un groupe un peu plus précisément? Est-ce que c'est pas maintenant en fait?
Ça pourrait effectivement être. Vous savez, les présidentielles du 12 décembre ont été moi ce que j'appelle l'étape 2 du Hirak. Voilà. Et là, en 10 mois. On est passé, si vous voulez, d'une contestation populaire un peu spontanée à quelque chose qui, les Algériens, dans ces marches entêtantes, têtues, si vous voulez, tous les vendredis et tous les mardis, ont appris ce qu'était l'action politique de la contestation et ont développé un répertoire d'action tout à fait original qui, à chaque fois, s'est structuré, s'est adossé, s'est a pris de la texture et a pris de la solidité qu'il n'avait pas auparavant. Et on voit bien comment, en 10 mois, il y a des collectifs, si vous voulez, qui se sont mis en place, qui ont structuré, qui ont parlé, qui ont discuté, qui négocient et qui, dont la conscience politique est extrêmement aiguë. Alors oui, peut-être au bout de 10 mois, il y a quelque chose qui pourrait émerger.
Fatima,
mais on va attendre.
Fatima Diresh, une dernière question avant de vous laisser. Vous le disiez, manifestation les mardis et vendredis. Demain, on est mardi. Les 3 jours de deuil vont commencer. Est-ce qu'on peut craindre cet instant qui risque d'être un petit peu particulier où à la fois il y a des gens dans la rue parce qu'ils le sont depuis 10 mois et en même temps un pays qui est en deuil national pour 3 jours?
Oui, le deuil national, mais est-ce qu'il sera véritablement respecté? Ça, je n'en sais rien, mais je pense qu'effectivement, les Algériens continueront à sortir le mardi, les étudiants et le vendredi, dans une dimension beaucoup plus large. Je pense que avec tout ce qui s'est passé ces 10 derniers mois, ce n'est pas demain la veille qu'on fera rentrer les Algériens chez eux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bah, vous pouvez finir votre phrase, Karima Diresh.
Non, mais c'est toujours compliqué, en fait, de prévoir ce qui se passe. Parce que là, nous sommes dépendants, effectivement, d'une actualité qui se fait. Et en fait, il y a des mutations sociales et des forces motrices de la société algérienne dont on soupçonnait pas un instant, il y a 10 mois, la force de conviction et que l'on est en train de découvrir nous-mêmes en tant que chercheurs ou en tant qu'observateurs. Donc, c'est compliqué, effectivement,
de
prophétiser.
Passionnant à suivre, y compris pour nous. On y reviendra, bien sûr, dans Un jour dans le monde en Algérie. Karima Diresh, historienne et directrice de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Merci à nos amis de France Bleu aussi pour l'accueil.
Le 18-20, Fabienne Sintès sur France Inter.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Birmanie, non pas avec des Rohingyas, mais avec une autre minorité qui est bouddhiste, celle-là, et dans un conflit très dur avec l'armée. Le bruit du monde, la suite, Amélie Perrier, ce sont d'étonnantes nouvelles assiettes en Arabie Saoudite.
Oui, la grande bouffe, c'est peut-être votre programme hein, dans les jours qui viennent, mais c'est un fléau en Arabie Saoudite et il y a une invention dont je veux vous parler ce soir.
Allez, à tout de suite. Le monde selon Trump et Loïc Glory. Bonsoir Loïc, avec de nouvelles révélations.
Bonsoir.
Sur les pressions de Trump envers l'Ukraine alors.
Oui, absolument. Donald Trump est sous le soleil de Floride, mais l'affaire ukrainienne, celle de l'impeachment, n'est pas refermée. Un email envoyé l'été dernier alourdit encore un peu son cas, on en parlera.
Le monde à l'envers, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bien bonjour.
Est-ce que Narendra Modi est en train de se tirer une balle dans le pied?
Ah
avec
oui,
son
c'est l'effet
de
boomerang. C'est l'effet boomerang. Le Premier ministre indien a réussi là où ses opposants politiques avaient échoué, dresser la rue contre lui.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il se mélange avec un petit peu de Niger, un petit peu d'Allemagne. Ça donne Ayo, Beautiful. Thank you.
yourself. What you see is a reflection of somebody else. Now if you want to find you, you gotta look underneath that shell. That's where you find true beauty, that of a precious pearl. Don't you know you're beautiful just the way you are? You are beautiful. You are beautiful just the way you are. You are beautiful. She wants to be like her, and he would love to be like him. You wanna be like me, why can't we just be who we are? When I was young, I wanted my hair straight, but the frizzy look wouldn't suit my face. I blow it out, but that wasn't enough, until chemicals will break my hair off. But then I knew God gave me a sign, to love myself so I could shine. I would let my fro grow back and wear a fisticomb instead, and put on a shirt that's set black and proud.
Du monde ce soir est en Birmanie. Et ce n'est pas du côté des Rohingyas que nous allons cette fois, mais dans un autre état, l'état d'Arakan, dans l'ouest du pays, qui est aujourd'hui le théâtre de violents affrontements. Ils opposent l'armée birmane à une rébellion, l'Arakan Army, qui réclame davantage d'autonomie pour l'ethnie majoritaire de la région, qui est bouddhiste. Ces gens se sentent mis de côté par le pouvoir central. Depuis janvier, les combats se sont intensifiés. Le soutien de la population à la rébellion est important sur place. Le reportage est signé Sarah Bakaloglou, dans une région quasi impossible d'accès pour les étrangers.
Les allées de ce monastère, situé dans la ville de Mraou, sont devenues le refuge de dizaines de villageois arrivés en famille en mars dernier. C'est à ce moment-là que les combats entre la rébellion locale et l'armée ont éclaté ici. Nous rencontrons un de ces déplacés qui préfère rester anonyme par peur des représailles de l'armée birmane.
Mon village était situé près d'un bataillon de l'armée birmane. Un soir, ils ont commencé à tirer, cela a duré toute la nuit. Trois de mes voisins sont morts. Nous sommes restés cachés à terre jusqu'au petit matin. Nous n'avons pas pu dormir. C'était la première fois de ma vie que j'entendais des combats.
Cet Arakanais, comme les autres déplacés, n'a que du riz à manger deux fois par jour et pas question de retourner dans son village par peur d'être tué, ajoute-t-il. Depuis janvier, les affrontements ont fait des dizaines de morts parmi les civils et les informations sont compliquées à obtenir dans cette région difficile d'accès où, à certains endroits, Internet a été coupé par le gouvernement. L'armée a effectué des centaines d'arrestations arbitraires, accusant la population de soutenir les rebelles. La rébellion, elle, a multiplié les enlèvements ces dernières semaines. Un climat de terreur, mais pour l'ethnie majoritaire de la région, la guérilla reste la meilleure solution pour que le gouvernement entende leur voix. C'est en tout cas ce que nous explique un jeune responsable d'association rencontré à Mraou.
L'Arakan a une longue histoire. Avant, c'était un royaume indépendant, le dernier qui ait existé en Birmanie. Alors la majorité de la population arakanaise pense que la rébellion peut permettre de revenir à cette situation. Les rêves de la guérilla et nos désirs sont les mêmes. Je suis professeur et j'ai des étudiants de 15-16 ans. Ils me disent « on veut rejoindre l'Arakan Army ». C'est notre dernier espoir pour nous, les Arakanais. Si on ne gouverne pas notre propre région, il n'y aura aucun progrès ici.
Des progrès notamment économiques, l'Arakan est une des régions les plus pauvres du pays, malgré les ressources naturelles présentes sur son sol. Le sentiment d'injustice est donc fort chez les Arakanais, ce qui explique aussi leur soutien à la guérilla. Dans un autre monastère devenu camp de déplacés lui aussi, un moine nous confie son mécontentement.
Pourquoi je suis venu dans cette ville il y a 4 ans? Parce que l'économie, l'éducation, les soins de santé sont presque inexistants. Ici, la population n'a pas d'argent. Comment rester ici dans ces conditions? Alors les jeunes vont en Chine, en Malaisie, en Thaïlande. Je suis un moine, mais je l'affirme. Notre territoire est occupé par le gouvernement birman.
Avec le départ de la junte militaire en 2011, les Arakanais ont espéré des changements économiques mais aussi politiques. Mais l'arrivée au pouvoir de la dirigeante Aung San Suu Kyi après les élections en 2015 n'a rien amélioré pour l'ethnie de la région. Umpan Leng est le secrétaire régional du Parti national de l'Arakan.
Le gouvernement de la Ligue nationale pour la démocratie nous domine. En 2015, notre parti pour l'Arakan a gagné la majorité des sièges dans notre État. Mais le gouvernement a décidé de nommer quelqu'un de chez eux pour diriger notre région. Les négociations de paix en cours ne peuvent pas marcher tant que le gouvernement central nous domine. Quand on va dans les bureaux du gouvernement, les directeurs ne sont jamais issus des minorités ethniques. Et c'est pareil dans les rangs de l'armée.
Without governance of our people, there will be no progress of our state.
Une sortie de crise semble aujourd'hui difficile. Les négociations de paix entre le gouvernement et la rébellion de l'Arakan Army n'avancent pas. Une question se pose, est-ce que les élections générales prévues l'an prochain en Birmanie pourront se tenir dans les zones de conflit de la région? Selon les Arakanais que nous avons interrogés, ce scrutin sera impossible.
Sarah Bakaloglou en Birmanie pour RFI et pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde passe aussi sous les radars. Il est rattrapé au vol par Amélie Perrier. Alors nous sommes dans un restaurant, Amélie, ouais, dans un restaurant en Arabie Saoudite. Donc je ne sais pas comment vous êtes habillée, mais pour éviter le gaspillage alimentaire, des Saoudiens misent sur la ruse visuelle.
Oui, c'est l'invention d'un jeune entrepreneur, Meshal Al-Karachi. Il a créé des assiettes et des grands plats de service bombés au centre. Quand vous les remplissez de riz, surmonté de viande ou de poisson, ça donne l'impression d'une portion très généreuse. Écoutez-le au micro de l'AFP. Alors il dit l'assiette a un design innovant, elle est surélevée au milieu, donc elle permet de réduire le gaspillage alimentaire de 30%, tout en conservant la même forme de l'extérieur. L'idée derrière la conception de l'assiette, c'est qu'elle ait la même apparence en contenant moins de riz. Ça n'a rien d'anecdotique quand on sait que l'Arabie Saoudite est le pays où chaque habitant gaspille le plus de nourriture en moyenne par Saoudien, 250 kilos de restes alimentaires jetés à la poubelle tous les ans. C'est plus de deux fois la moyenne mondiale. Et les Saoudiens les plus aisés peuvent gaspiller jusqu'à plus de 420 kilos de nourriture par an. Ouais, car là-bas, les plats surchargés, surabondants, sont un signe de générosité, d'hospitalité. On en met toujours plus, toujours trop. Il faut dire aussi que les restaurants, les grands repas, ont été pendant longtemps le seul divertissement dans le royaume, la seule liberté offerte aux Saoudiens. C'est d'autant plus un problème que le royaume n'est pas une terre fertile où les fruits et les céréales poussent en abondance. On importe énormément dans le secteur alimentaire et les pouvoirs publics subventionnent fortement les denrées. Le gouvernement estime que le gaspillage alimentaire coûte environ 13 milliards de dollars par an à l'Arabie Saoudite. Or aujourd'hui, à l'heure où les prix du pétrole chutent et creusent le déficit du pays, il faut changer la culture alimentaire de la société. La nourriture ne doit plus être considérée comme acquise et infinie. Par ailleurs, 40% de la population saoudienne est obèse et là c'est un autre problème de santé publique.
Voici maintenant une petite révolution politique et c'est à Cuba.
Oui, l'île a depuis ce week-end un premier ministre. Le poste n'existait plus à Cuba depuis 1976. Et j'ai une colle pour vous Fabienne, qui a été le dernier chef du gouvernement jusqu'en 1976. Bon. Un indice chez vous.
Esta alternativa entre el pasado y el futuro.
Bah oui, entre le passé et le futur, au milieu il y avait Castro.
Barbe, effectivement, Fidel Castro. Là, il est dans une archive de l'INA, discours au théâtre Karl Marx de La Havane, le 19 avril 1976. Cette année-là, en décembre, Castro va devenir président des conseils d'État et des ministres. Il concentre tout le pouvoir dans ses mains. Son frère, Raúl Castro, reprendra le flambeau en 2008. Aujourd'hui, le chef de l'État s'appelle Miguel Díaz-Canel et il a nommé ce week-end Manuel Marrero, premier ministre. L'homme a 56 ans, il est architecte de formation, il a dirigé un grand groupe hôtelier appartenant aux forces armées cubaines et depuis 2004, il était ministre du tourisme. Ce que l'on comprend, c'est que le chef de l'État va garder un pouvoir important. Il sera assisté par le premier ministre dans les fonctions du gouvernement, nous dit grand mal le journal officiel. En tout cas, c'est un renouvellement de la génération. Depuis l'arrivée de Miguel Díaz-Canel au pouvoir, les ministres généraux de l'époque Raúl Castro sont partis, presque tous. Autre signe du changement, dans la continuité, Manuel Marrero adhère au Parti communiste, mais contrairement à beaucoup d'autres dirigeants politiques, il n'est pas membre du comité central ou du bureau politique du PCC.
Allez, elle est jeune et elle inspire tout un pays.
C'est une héroïne au Japon, la nageuse Rikako Ike, 19 ans, vient de sortir de l'hôpital après 10 mois de traitement contre une leucémie. Voilà, Rikako, je vous en avais parlé l'an dernier, c'est cette étoile montante des bassins qui provoque l'hystérie des commentateurs sportifs japonais. Elle a été la première sportive, toutes disciplines confondues, à remporter 6 titres aux Jeux asiatiques l'an dernier. 50 mètres, 100 mètres et relais 4 fois 100 mètres libre, 50 et 100 mètres papillon, relais 4 fois 100 mètres, 4 nages. Elle était l'espoir du pays pour les JO l'an prochain à Tokyo, à domicile. Mais même si la presse se réjouit de sa sortie de l'hôpital, plus tôt que prévu, la jeune femme a visiblement abandonné l'idée de participer aux Olympiades dans son pays. Son prochain défi, ce serait donc les JO de Paris 2024. Elle aura 24 ans et tout un pays derrière elle. Vous alignez à côté ?
Mais totalement, attendez, parce que moi, aux 50 mètres, absolument, je suis à fond. Amélie, merci beaucoup, on se retrouve demain. Tiens, je vous emmène across the 110th Street, figurez-vous, avec Bobby Womack, c'est la bande-annonce, Oui, la BO, absolument, de Jackie Brown. C'est comme ça qu'on dit.
Bande originale.
Allez, ça y est, merci beaucoup.
Pareil.
Elle vous remercie.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to you about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man, you're copping out. Take
my advice. It's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street.
Across the 110th Street et Bobby Womack, voilà qui nous emmène directement à New York. Ça tombe bien, c'est là qu'on veut aller.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
Le monde selon Trump et Loïc Loury ce soir. Loïc, le président américain joue au golf en Floride pour les fêtes. C'est pas vraiment une surprise. Donc il s'éloigne de Washington quelques jours seulement après son impeachment. Donc le président est accusé, nous le savons, d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour obtenir une enquête sur Biden et fils. Aujourd'hui, Loïc, de nouvelles révélations viennent renforcer les suspicions.
Et oui, sous la forme d'un email, Fabienne, envoyé par un responsable du budget le 25 juillet dernier. Il faut rappeler le contexte. Donald Trump passe un coup de fil à son homologue ukrainien. Il lui réclame une enquête à propos de Joe Biden. C'est la fameuse affaire dite ukrainienne qui a conduit à l'impeachment. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'une heure et demie plus tard, à peine, eh bien, Michael Duffy, le responsable du budget dont on parlait, a demandé au Pentagone d'attendre, c'est le terme employé, d'attendre avant de verser une aide à l'armée ukrainienne. Dans le mail en question, il parle de consignes reçues et il conclut ainsi: étant donné la nature sensible de la demande, je vous saurai gré de le garder su strictement de ceux qui doivent être tenus au courant. En clair, l'affaire est grave, gardons ça secret. Les démocrates parlent d'une révélation explosive, les républicains estiment que cela ne changera rien. À leur crédit, Fabienne, ce mail ne prouve pas de lien entre les pressions exercées par Trump et la retenue de l'aide militaire. Le président devrait donc passer des vacances plutôt tranquilles en Floride.
Alors en attendant donc un possible procès en destitution, normalement c'est au mois de janvier, on aura l'occasion de suivre tout ça. Donald Trump, pas très inquiet, ça ne l'empêche pas d'utiliser cet impeachment pour mobiliser ses troupes.
Et pour preuve, cette statistique assez impressionnante, sur les trois derniers mois, 99,2% des publicités diffusées à la télévision par le camp du président portaient sur cet impeachment. C'est un site spécialisé qui publie ce chiffre, près de 4600 publicités au total pour 4,5 millions de dollars. Alors pourquoi le président parle-t-il de sa propre mise en accusation? D'abord pour mobiliser donc ses troupes derrière lui, sa base électorale qui est persuadée que les démocrates mènent une chasse aux sorcières, selon l'expression martelé par le président. Et puis l'objectif est aussi économique. Donald Trump lève des fonds auprès de ses donateurs. Un exemple, lors du premier jour des auditions publiques de l'enquête en destitution il y a quelques semaines, eh bien le président américain a reçu plus de 3 millions de dollars, donc en à peine 24 heures. Une campagne présidentielle aux États-Unis, ça coûte excessivement cher et pour l'instant, c'est Donald Trump qui a les poches les plus profondes.
99,2% des spots, ça fait quand même beaucoup.
Précisément.
Un Donald Trump, Loïc, qui profite donc des accusations qui pèsent contre lui. C'est aussi le cas d'un magazine chrétien dont on a parlé récemment.
Oui, Christianity Today, c'est un magazine évangélique, une communauté qui soutient pourtant largement le président. Ce magazine donc avait publié un éditorial très virulent appelant à la destitution de Donald Trump. Le journal décrivait le président comme un être, je cite, humain, moralement perdu et confus. Cela évidemment n'avait pas plu à l'intéressé qui s'en était largement exprimé sur Twitter et avait accusé notamment le journal d'être d'extrême gauche. Aujourd'hui, on apprend donc que Christianity Today a bénéficié de cette polémique. Le magazine évidemment a perdu des abonnés, sans doute déçus de ses positions anti-Trump. Il en a surtout beaucoup gagné, trois fois plus, selon un responsable de cette publication. D'après lui, la réponse type de ses nouveaux abonnés est la suivante, peut-être un poil exagérée, merci, 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 trois fois donc suivi, dit-il, d'une centaine de points d'exclamation.
Un dernier mot, un mot de Donald Trump, Loïc, le président donc, vous nous l'avez dit, est en vacances, mais il n'est pas totalement inactif.
Non, et samedi, il s'est d'ailleurs exprimé face à des conservateurs en Floride, l'impeachment bien sûr au programme, mais aussi un autre de ses thèmes de prédilection, les éoliennes. Donald Trump les déteste, on rappelle que c'est un climato-sceptique, qu'il a beaucoup fait pour aider notamment l'industrie du charbon, et son discours pourtant n'est pas toujours très clair sur la question.
Je n'ai jamais compris le vent, mais je connais les éoliennes. Je les ai étudiées mieux que personne. C'est très cher. Quand elles sont fabriquées, si vous vous y intéressez, des quantités énormes de gaz, de fumée se répandent dans l'atmosphère.
Ok.
Voilà, Donald Trump et sa passion pour les éoliennes qui conclut. Vous savez que nous avons un monde, ce monde est petit comparé à l'univers. Le président avait déjà suggéré que le bruit des éoliennes pouvait entraîner le cancer. Plus simplement, il reproche aux moulins à vent, comme il les appelle, Fabienne, de ne pas fonctionner lorsque le vent ne souffle pas.
Voilà, je n'ai jamais vraiment compris le vent. Ce serait une belle phrase de début de roman. Merci beaucoup, Loïc Loury, avec nous en direct de New York.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, en Inde, les manifestations se sont poursuivies aujourd'hui encore, en particulier dans la capitale New Delhi. Ça fait 2 semaines que ça dure. Le bilan est déjà de 25 morts, confortablement réélu au printemps dernier. Le premier ministre hindouiste et nationaliste, Narendra Modi, s'est peut-être vu trop beau. Il est d'abord victime de lui-même et c'est votre monde à l'envers.
Oui, il a peut-être poussé le bouchon trop loin avec cette loi, le Civil Amendment Act, qui exclut de la naturalisation les immigrés de religion musulmane. Et eux seulement. Ce que l'opposition n'a pas su faire, Modi l'a déclenché tout seul comme un grand, dresser la rue contre lui. C'est en fait le réveil de la société civile indienne. Le grand parti d'opposition, le parti du Congrès, largement discrédité, n'y est pour rien. Non, il s'agit bien de mouvements spontanés, non-stop depuis 2 semaines, des jeunes en particulier, surtout dans le nord du pays, et de toute confession. Ils s'élèvent d'abord pour défendre la constitution indienne de 1955, fondée sur la laïcité, c'est l'article 14, et pour défendre plus largement une identité nationale qui fait de l'Inde une terre de refuge pour les persécutés. C'est un peu l'esprit de Gandhi. Il dénonce aussi la mauvaise foi flagrante du pouvoir. Le BJP, le parti de Modi qui ne manque pas d'air, affirme que ce texte controversé a pour but d'accueillir les minorités pourchassées dans les pays voisins. Bah alors à ce moment-là, il devrait s'ouvrir aux Rohingyas de Birmanie, aux chiites du Pakistan. Seulement voilà, ils sont musulmans. Non, la réalité ne fait guère de doute, c'est un texte anti-musulman. Enfin, les manifestants dénoncent la violence de la répression. 25 morts, vous le disiez, des centaines d'interpellations, internet coupé de façon régulière, des journalistes interdits d'accès dans plusieurs régions du Nord. La rue, en fait, défend l'état de droit.
Et les musulmans eux-mêmes, Jean-Marc, que disent-ils? Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs?
Et ben là aussi, en fait, Modi ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a réussi à réveiller les musulmans du pays, même s'ils ne représentent que 14% de la population. Ça fait tout de même 200 millions de personnes. C'est énorme. L'Inde, c'est le deuxième pays musulman au monde. Ces dernières années, le plus souvent, il se taisait face à la montée du nationalisme hindouiste, face au mépris affiché par Modi, qui les qualifie quand même régulièrement de termites, hein, de termites. Ouais. Ou pire encore, pour un Indien, de pakistanais, allusion évidemment au grand ennemi issu de la partition du sous-continent. Aujourd'hui, les musulmans sont dans la rue, à l'initiative d'abord des étudiants de la grande faculté Jamia de New Delhi. Ils sont sortis de leur silence pour exprimer en fait leur appartenance à la nation indienne, leur choix de respecter sa tradition séculaire où les droits sont égaux, quelle que soit la religion. Ils disent en fait que les musulmans sont aussi indiens que les hindouistes. Modi a déclenché une sorte d'effet boomerang. En cherchant à discriminer les musulmans, il les pousse à s'affirmer. Alors le pouvoir commence à se rendre compte de son erreur. Il a lancé ce matin une vaste campagne de communication avec notamment un petit dessin animé en vidéo qui vise à rassurer les musulmans. Vous le verrez sur le site de France Inter. C'est sans doute peine perdue.
Et donc la suite, Jean-Marc, c'est quoi?
Les risques sont multiples pour Modi. On peut en énumérer au moins 3. Le premier est politique, que la contestation s'accentue et surtout fasse émerger de la société civile de nouveaux leaders qui ont une image plus propre que l'opposition actuelle. On notera au passage, même si c'est pas totalement lié, que le BJP, donc le parti de Modi, vient de perdre aujourd'hui les élections régionales dans la province de Jharkhand. Dans le nord du pays, le BJP perd région après région. Le deuxième risque est économique. Devant l'incertitude politique, les transferts de fonds en provenance du Bangladesh voisin pourraient se tarir. Et ça, ça tombe mal parce que c'est une ressource importante à un moment où l'économie indienne est en plein ralentissement. Et puis troisième risque, la claque judiciaire, tout simplement la Cour suprême indienne, l'équivalent du Conseil constitutionnel, qui a déjà maintes reprises démontré son indépendance, pourrait très bien retoquer ce texte. Pour l'instant, le pouvoir joue le pourrissement. Mais cet épisode, il démontre une chose. Le meilleur adversaire d'un dirigeant nationaliste et populiste, c'est lui-même. Sa tentation d'aller trop loin, de se voir trop beau. On l'a vu avec Salvini en Italie, victime de la crise gouvernementale qu'il avait lui-même déclenchée. On l'a vu avec Erdogan en Turquie, fragilisé par l'échec de son parti à Istanbul, après avoir lui-même imposé que l'élection municipale y soit rejouée. On commence à le voir avec Modi en Inde. Peut-être le verra-t-on avec Trump aux États-Unis.
Allez savoir, Jean-Marc Four et le monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc, on se retrouve demain. Nous on reste ensemble pour le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal d'Hélène Philly. Merci de passer la soirée avec nous.